18h, 19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Bonjour, bonsoir, quels chers amis, quel plaisir de vous retrouver. Moi, ça me fait plaisir, c'est vrai. Quand je viens tous les soirs, voilà, vous savez, c'est un plaisir d'échanger avec vous. Un plaisir aussi de venir vous informer. Parce que Les Informés, c'est de 18h jusqu'à 19h30. On commente, on analyse et on décrypte. Clochette. Au sommaire de cette émission, c'est parti, chère madame et chers messieurs. Eh bien, au sommaire, nous allons parler de l'affaire Le Graët Zidane. La seule question que je pose, et j'ouvre l'antenne tout de suite, dès maintenant, au 01 53 48 3000, Anthony est prêt, disposé pour répondre, comme tous les soirs, au standard. L'affaire Le Graët, est-ce que Noël Le Graët doit démissionner? C'est simple, après ce qui s'est passé, après les propos. Est-ce qu'il doit démissionner? Oui ou non? Je vous attends. Pour venir échanger, évidemment, sur ce climat délétère qui s'installe dans notre France, notre chère France. Douce France, vous connaissez tout ça, hein, Anthony?
Bien sûr, bonsoir Adil, bonsoir tout le monde. Je sais pas ma génération, mais je connais.
Voilà, exactement. Et puis ensuite, tout à l'heure, nous allons recevrons les débatteurs influenceurs qui viendront avec nous, justement, pour commenter Le Graët Zidane, la réforme des retraites, puisqu'on est en plein dedans. Il y a là, justement, la pleine conférence de, en ce moment, qui se déroule même pour nous annoncer la réforme des retraites, l'annonce, les annonces plutôt. La SNCF est en augmentation de 5%, on en parlera aussi. Et puis, on posera la question, est-ce la fin des gilets jaunes? Voilà le programme qui vous attend. C'est maintenant, c'est tout de suite, en toute liberté d'expression.
Beurre FM, 18h, 19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkan.
Allez les auditeurs, on commence par vous, c'est votre espace de liberté. C'est maintenant et c'est parti.
01 53 48 3000, Les Informés vous donnent la parole.
On vous donne la parole, Anthony, vous êtes prêt? Ça va, tu es prêt Anthony?
Eh ben écoute, comme hier soir au taquet pour répondre à vos nombreux appels, c'est vrai que vous êtes de plus en plus... Et juste parce que j'ai, je viens de voir ça, le COMEX, donc le haut responsable, enfin les hauts responsables de la FFF, se réunit en urgence demain.
Ouais, demain. 01 53 48 3000, emparez-vous de votre téléphone et vite, on vous attend au standard. 01 53 48 3000, alors qu'on attend demain, vous savez, la décision du COMEX. Le COMEX, c'est le comité de direction extraordinaire, donc qui se réunit demain dans une réunion extraordinaire pour convoquer le Noël Le Graët, pour justement parler avec Noël Le Graët. Moi, j'ai envie de vous poser la question, aujourd'hui, là, maintenant, pendant une demi-heure, c'est votre espace de liberté, est-ce que Noël Le Graët doit, est-ce que vous réclamez cette démission? Oui ou non? Est-ce que vous réclamez la démission de Noël Le Graët après les propos tenus envers Zinedine Zidane, l'icône, le symbole, la légende du football? 01 53 48 3000, je vous attends partout en France. Venez échanger. Et venez échanger justement, là, maintenant, en direct. Premier auditeur. J'aime bien le premier auditeur, c'est toujours celui qui ouvre, vous savez quoi, l'antenne. Adèle de Paris. Bonsoir Adèle.
Oui, Adèle, bonsoir.
Bonsoir. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, mon cher Adèle?
Je suis commercial.
Ça va, tout se passe bien?
Dans le médical, ça va, alhamdoulilah, grâce à Dieu, oui.
Dans le médical.
Bonne année à tous les auditeurs.
Dans le médical, à mon avis, je pense que là, il y a ce qu'il faut. Hein. La pénurie, on parle que de ça.
Ah là, en ce moment, je vous raconte pas.
Ouais.
Je voulais réagir par rapport à l'affaire Le Graët et Zidane, si c'est possible.
Bien sûr, mais c'est le sujet, c'est votre espace, j'ai dit. Allez-y, n'hésitez pas. Et puis surtout, est-ce que vous réclamez la démission de Noël Le Graët?
Bah, franchement, pour pas vous mentir, ça fait depuis l'affaire Benzema, moi, que je réclame son éviction, même pas sa démission.
C'est vrai.
Parce que, en fait, ça fait un moment que ce monsieur-là, voilà, pour moi, en tout cas, il a un problème avec les Maghrébins. Hein. Voilà, je le dis clairement. Peut-être avec d'autres races aussi, mais en tous les cas, je vois que ce monsieur-là, il y a un fond de racisme derrière tout ça. Enfin, en tout cas, à mon humble avis. Hein. J'aimerais bien que les pouvoirs compétents lui fasse fermer sa bouche.
Ouais, bah écoutez, en tout cas, il est convoqué demain, vous le savez. Le comité exécutif extraordinaire, il a convoqué demain Noël Le Graët. J'espère très honnêtement, je vais vous dire entre nous, Adèle, j'espère qu'il va arriver avec sa démission.
Bah oui, mais
pour
en
sa
fait,
dignité,
non,
pour son honneur, arrive avec ta dignité.
Oui, mais
non, mais c'est vrai. Si t'es digne, si t'as un peu d'honneur, tu démissionnes.
Oui, mais non, mais il a pas d'honneur, ce monsieur-là. C'est non. De toute façon, 80 ans, plus de 80 ans, qui, enfin, je sais pas. Hein, il lui manque juste l'eau chaude, comme on dit chez nous.
C'est pas mal ça. Merci Adèle d'être intervenue.
Excusez-moi d'avoir été aussi franc, mais.
Mais vous avez raison, c'est le but.
Voilà.
C'est le but.
En tout cas, bonne année dans le cadre. À vous, meilleures années à vous. Non, toujours dans le cadre. Ouais. Et voilà. En tout cas, vivement
aussi,
que ce monsieur-là ne soit plus dans le visage de, enfin, au niveau de la fédération, quoi, du football française, et même au niveau international. Voilà.
Eh bien, écoutez. La décision est attendue.
Qu'on sera écouté. Avec, ouais, elle est attendue, franchement, avec un grand, grand, grand plaisir.
Partagez. Merci Adèle, prenez soin de vous.
Excellente journée à vous. Bonne continuation.
Tiens, je vais accueillir Ben Amar, qui nous appelle de Paris aussi, ensuite Fatima.
Bonsoir
Ben Amar, comment ça va?
Ça va, alhamdoulilah.
Bon, tout va bien. Vous faites quoi dans la vie, Ben Amar?
Moi, je suis en train de prendre le mien à Paris.
Ça se passe bien?
Oh, ça va, bah, je viens de finir là. Il pleut, mais bon, ça va.
Il pleut pas mal. Amateur de foot?
Ah, ouais, j'adore le foot, ouais.
Alors, le Gretz?
Bah, lui, ouais. Moi, je montre qu'il dégage, il démissionne, quoi, mec.
Ouais.
C'est pas un homme, c'est pas un djinn, ça. C'est pas un président FIFA, franchement. C'est honte. Zidane, en plus, il est bien comme joueur. J'aime bien, moi, j'adore. Il est calme. Franchement, jamais ça raconte, quoi. Ils sont pas les gros mécaniques. Ça, moi, je trouve des chances, il faudrait qu'ils partent. Hein. Parce que ouais, la défaite qu'ils ont eue, là, c'est honte, tu vois, je veux dire. C'est, pour moi, c'est pas bien joué. Hein. Il y a que Mbappé qui l'a bien joué, moi, pour moi. La dernière. C'est rien. Bah, pour moi, il sert à rien. Pour moi, qu'il démissionne, quoi. Il change de place. Il n'est pas content, pour moi, tu vois.
Ouais.
C'est la phrase Zidane. Je pense que c'est la phrase Zidane, il reste, je sais pas, mais bon, je ne veux pas dire le mot. Mais...
Donc, vous réclamez la démission de Noël Le Graët?
Ah oui, tout de suite, moi. Ah ouais, moi, franchement, il m'énerve. Hein. Franchement, c'est pas un bon dirigeant. Ça ne suit pas, il est zéro, hein, pour moi. Il joue trop les mécaniques, je sais pas. Mais bon.
Ouais. Non, mais bah, ce qu'il a fait, c'est inadmissible, ça, c'est sûr. Hein.
Bah, moi, je peux faire Zidane que Deschamps, je le dis. Hein. Franchement, comme entraîneur.
Bah, je crois que beaucoup sont comme vous. Hein. 0153483000.
La défaite qu'ils ont reçue à Qatar, regarde. Ils sont pris une raclée par son compte. Contre l'Argentine. Et heureusement, les papés, ils ont joué, mais les restes, ils n'ont rien joué. Zéro. Même Benzema, c'est dommage qu'il n'a pas joué. C'est dommage.
Ouais, bon. Ça, c'est sûr. On regrette Benzema.
Peut-être qu'il aurait joué, peut-être qu'il aurait gagné, peut-être. Je ne sais pas. Après, je pense, à mon avis. 80% qu'il aurait dit, je pense qu'il avait mis des débats. Et voilà, ça c'est le choix. Voilà, les dirigeants sont nuls. Franchement, ils sont nuls. Franchement, zéro.
Faut changer tout le staff, selon vous?
Pardon?
Faut changer tout le staff?
Ouais, faut tout changer. Bah, bien sûr, faut tout changer. Il y a un résultat, attends. C'est lamentable, franchement. Personne ne te rend compte. Ils ont perdu la coupe. C'est grave, hein, mais bon. Ouais, c'est le jeu.
Eh bien, merci Ben Amar.
Ok, merci beaucoup. Ouais.
Portez-vous bien et bon courage. Prudence à vous sur les routes.
Merci, au revoir.
Fatima d'Aubervilliers. Bonsoir, Fatima.
Oui, bonsoir.
Comment ça va, ma chère Fatima?
Ben, on peut y aller.
Bon, qu'est-ce qui se passe?
Avec le temps, mais on peut y aller. On vit quand même. Donc, voilà. Alors, je voulais intervenir.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous, Fatima?
Alors, moi, je suis retraitée.
Oui.
Et donc j'étais éducatrice depuis de nombreuses années et donc là je suis à la retraite mais à la retraite très 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 active, voilà. Je fais plein de choses. Voilà,
bon, c'est bien, voilà. On vous écoute, donc, Fatima.
Alors donc la question posée, mais bien sûr qu'il faut qu'il démissionne. Bien sûr, parce que ça n'est pas possible que quelqu'un comme Le Graët reste depuis des années. Et en plus, il n'y a pas que cette polémique. Il y a eu des polémiques à l'époque.
Oui, bien sûr.
Et énormément. Et à chaque fois, c'est des excuses. Alors, des excuses. Non, mais attendez, c'est pas possible. Là, c'est pas possible.
N'oublions pas aussi qu'il y a les accusations de Sonia Swede.
De Sonia Swede, oui, bien sûr.
Qui m'a dit qu'il m'a fait comprendre qu'il aimerait bien que je finisse dans son lit.
Absolument.
C'est grave, absolument. Hein.
Et je pense que, il y aura certainement d'autres qui vont se révéler, parce que ça n'est pas normal de laisser des gens à la tête des institutions pareilles. Hein, pareil, c'est pas possible. Et insulter. C'est comme si il faut que les gens comprennent que le mec là, il a été mis ici, mais simplement que là, ça se dégrade vraiment depuis des années. On le laisse. Ouais. On le laisse. Donc là, c'est inacceptable. Bah. J'espère, en tous les cas, que...
plus vous êtes nombreux à le dire, et plus il va y avoir écho à tout ça.
Moi, je n'arrête pas. Donc, je ne suis pas quelqu'un qui... je vais, donc de temps en temps, je soutiens, machin et tout ça. Mais bon, je ne suis pas une servante de football. Mais c'est le sens de la phrase qu'il a envoyée en insultant quelqu'un de... qui a apporté énormément. Comment on peut insulter des gens comme ça? C'est pas possible.
Non, c'est
et
très
le
grave.
Seul qui a eu le courage, bon, c'est Mbappé, mais
Mbappé, il a respect, eu le courage. Mbappé, hein, et respect.
Il faut que...
Il a ouvert le bal.
Mais il reste silencieux quand même. Hein. Il reste quand même silencieux. Parce que toujours la peur de machin et tout ça. Non. Quand il y a des choses qui ne vont pas, il faut les dire dignement. Mbappé, il les a dit dignement. Mmh. Il a insulté personne. Il n'a pas attaqué. Il a dit que c'était... On n'attaque pas une légende. Mmh. C'est pas possible. Donc ça,
il a dit on ne manque pas de respect. Voilà.
On ne manque pas de respect.
À une légende. Il a dit Zidane, c'est la France.
Ça, c'est... Ben oui. Et tout ça, c'est quand même... Il y a quand même... Donc quand on entend la vidéo... Et quand on entend ces propos à le grec, c'est du racisme, tout simplement. Mmh. C'est un manque. Je ne veux plus de ces gens-là. Je ne veux plus.
Et merci.
Ça, c'est clair.
Merci voilà. Fatima pour votre témoignage.
Voilà. Il n'y a pas de souci.
Et vous êtes nombreux à nous appeler au 01 53 48 3000. Restez fidèles, Fatima. Bonne soirée à vous aussi. Mélie, vous nous appelez du 93. Quelle ville du 93, Mélie?
Rosny-sous-Bois. Bonjour.
Rosny-sous-Bois, qu'est-ce que vous faites dans la vie?
Je suis orthoptiste.
Bienvenue à vous.
C'est encore du médical. On est encore dans le médical.
On est encore dans le médical, je vois. Je sais qu'il y a beaucoup de personnels soignants qui nous écoutent. Mélie, on vous écoute alors sur le Gret, Noël Le Gret.
Bon, écoutez, moi je pense que ce monsieur, il a quand même été à la présidence, il a été réélu 4 fois, c'est déjà énorme, personne n'est resté aussi longtemps. Il est très antipathique, il sourit jamais, très méprisant. Et il faut faire très attention parce qu'il est très médiatisé et il n'a jamais apparu aux yeux de personne. D'ailleurs, je pense qu'il n'est pas tellement porté dans les cœurs des gens. Hein. Mmh. Mais alors, franchement, depuis l'affaire de Benzema, il y a vraiment anguille sous roche. Hein. On va dire que Didier Deschamps avait envie de l'écarter quand même, le Ballon d'Or. C'est quand même incroyable. Incroyable. Ils se sont privés d'une personnalité extraordinaire. Hein. Sous prétexte qu'il avait un problème qu'il a déclaré forfait à cause de son genou. Ils l'ont même pas laissé guérir. Ouais. Au Qatar, ils l'ont renvoyé tout de suite à 6 heures du matin.
Ouais,
c'est bizarre quand même.
Effectivement, il y a des zones.
Alors Benzema, algérien. Zidane, algérien. Comme disait la dame précédente, oui, c'est une légende.
Préciser.
C'est pas une légende. Fatima. C'est le préféré des Français. C'est grave ce qu'il a fait. Il a même pas réfléchi.
Mélie, faut préciser. Oui. C'est pas Benzema algérien, Zidane algérien. Ils sont français, hein.
Je suis d'accord avec vous, mais dans la tête de ces gens-là, ils sont quand même d'origine algérienne. Hein, ils sont quand même d'ascendance algérienne.
Bien sûr, c'est ce que je vous dis. Vous avez dit algérien. Ils sont français.
Non, mais d'origine algérienne, parce qu'il est quand même allé à Béjaïa, c'est ma ville, hein, je suis de Béjaïa, il est allé à Béjaïa, c'est un bougiote, on le sait, il n'a jamais parlé de l'Algérie pendant toute sa carrière. C'est une fois qu'il a pris sa retraite, il s'est retiré, qu'il a commencé à montrer son côté un petit peu, qu'il est attaché au pays, etc. Donc, quand même, ils le savent, ça lui ont pas pardonné. Mmh. Et c'est visible. La façon dont il a traité Zinedine Zidane, c'est quand même incroyable.
Non, mais le Gret, effectivement, on le dit.
C'est administratif.
Réclamer la démission. Merci, Mélie, en tout cas, d'être intervenue.
Voilà, donc, normalement, je comprends pas qu'il y ait un comité autour de lui qui le soutienne. C'est bizarre. C'est une forme de dictature. Je trouve que c'est pas normal dans un pays démocratique comme la France que ce type-là se maintienne encore dans cette présidence. Alors qu'il y en a qui sont encore plus compétents que lui, plus jeunes. Encore, en tout cas, plus sympathiques, plus souriants.
Plus souriants, oui.
Voilà.
Merci, Mélie, pour votre...
Le foot en l'air, là.
Merci, Mélie, pour votre appel.
Et lui,
merci à vous.
Il faudrait qu'on foute
dehors. 18h14. Merci, Mélie, merci. Je suis obligé d'accélérer parce que je dois lancer la pub. Et puis, on a beaucoup d'appels aussi, notamment. Donc, ne bougez pas, restez avec nous. Il y a Abdelkader et puis tous les autres aussi, notamment au 01 53 48 3000. À tout de suite, ne bougez pas. On se retrouve dans une poignée de minutes.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkan.
18h22, Les Informés, c'est aussi vous, 0153-48-3000, je vous attends. Et vous êtes très nombreux à nous appeler justement concernant Noël Le Graët et les propos, évidemment, envers Zinedine Zidane. Tout de suite, je vais accueillir Abdelkader du 94. Abdelkader, bonsoir.
Oui, salam alaikum, bonsoir.
On vous écoute. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, mon cher Abdelkader?
Moi, je suis médiateur et professeur de sport.
Bon, ça se passe bien?
Oui, très très bien, alhamdoulilah.
Eh ben, parlons sport, justement. Alors, Noël Le Graët.
Voilà. Alors, Noël Le Graët, moi, quand j'ai entendu ce qu'il a dit, je savais pas quoi dire, j'étais choqué au début.
Il y a de quoi, hein?
Parce que j'ai tout de suite pensé à tous les jeunes footballeurs, les petits jeunes licenciés de la Fédération de foot.
Ah oui, c'est ça, d'abord.
Il faut dire que c'est la plus grande fédération française d'adhérents. Il y a plus d'un million, je crois, ils sont plus d'un million 600 000 adhérents au foot. Et j'ai plus le nom, je sais qu'ils dépassent le 1 million et 600 000 à peu près.
Oui, c'est ça, 2 millions environ, c'est ça.
Voilà, ils sont environ. Beaucoup de licenciés en France, et après c'est l'équitation, après c'est le judo, etc. Et moi j'étais choqué parce que j'ai dit, les petits jeunes là qui entendent des propos comme ça, qu'est-ce qu'ils vont penser? Voilà. Et aussi, moi je faisais partie d'une fédération, j'étais cadre technique dans une fédération. Et j'ai assisté, ça fait 35 ans que j'assiste dans des réunions de sport, dans les villes, dans la ville où je suis. Moi je suis à Villiers-sur-Marne dans le 94, je sais pas si vous connaissez.
Oui, bon, bien sûr.
C'est une petite ville de 30 000 habitants, on a à peu près sur toutes les activités, on a 12 000 licenciés. Et on a un club de foot. Et moi je sais que au niveau du foot, il y a toujours eu l'omerta au niveau des jeunes maghrébins, les jeunes issus de l'émigration, parce que on avait beaucoup de problèmes avec avec les inscriptions des petits jeunes. Et je sais que j'ai pas la preuve, mais je sais qu'à un moment il y avait des quotas au niveau de la fédération de foot par rapport aux jeunes issus de l'émigration. Voilà, et je sais qu'il y a une omerta autour de ça au niveau de la fédération de foot.
Une omerta, vous parlez d'omerta, vous.
Voilà. Ouais. Ouais. Je sais que.
Là où je vous rejoins, et vous avez raison, Abdelkader, c'est vrai qu'effectivement, quand on est président d'une fédération, on se doit de tenir évidemment une exemplarité, y compris des jeunes qui sont des jeunes licenciés qui, évidemment, et quand ils captent ce message, ils écoutent ce message. Qu'est-ce qu'on peut dire après tout ça, effectivement? Les jeunes, on passe leur temps à leur donner, évidemment, les règles.
On dit l'insertion par le sport. Nous, on fait de l'insertion par le sport. On essaie de faire comprendre aux jeunes, vous savez, sur plein de choses, hein, sur la vie de tous les jours, sur le savoir-vivre entre nous, le respect d'autrui, etc., etc. Et là, vous avez un gars qui est président de la plus grosse fédération de sport française. Je crois même en Europe, c'est une des plus grosses fédérations européennes, même. Je pense qu'on dépasse l'Espagne, on dépasse les autres pays, parce que la France a les moyens, donne les moyens aux grosses fédérations, les moyens financiers, et en plus, quand vous entendez quelqu'un qui a 84 ans parler comme ça, vous dites qu'il y a un problème. Et en plus, mettre quelqu'un de 84 ans comme ça à la tête d'une fédération, c'est chaud quand même aussi. Je pense, après... c'est mon avis.
Bon, écoutez, vous l'avez dit, effectivement. Merci Abdelkader pour votre intervention.
Je vous en prie, bon courage et bonne continuation et bon courage pour Zidane. Allez.
Exactement.
Au revoir.
Baya du 77. Baya, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Quelle ville du 77?
Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Bonsoir à tous. Bonsoir à tous les éditeurs.
Quelle ville du 77?
Je souhaite d'abord une excellente... Courtrie, Verchelles.
Il y a un petit léger décalage quand on se parle. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Baya?
Je suis éducatrice spécialisée.
Bon.
Auprès des jeunes.
On vous écoute, chère Baya.
Ok, merci de me donner la parole. Alors, je suis scandalisée par rapport aux propos qui ont été tenus par Noël Le Graët. Donc, franchement, ce mec, il doit partir. C'est pas possible. Il a traîné trop de casseroles déjà avant. Le coup qu'il a fait pour Benzema, et là, il attaque à Zidane. C'est quand même très touchant parce que Zidane, c'est quelqu'un qui a donné beaucoup pour la France. Il est humble, ce mec, ce monsieur. C'est un grand monsieur. C'est une légende, comme il a dit Mbappé. Et franchement, s'attaquer gratuitement, c'est de la méchanceté gratuite et c'est du racisme. Je suis dégoûtée par rapport à tout ça. Moi, ce qui me ce qui m'a interpellé, enfin, m'a choqué, certains propos sur les réseaux sociaux qui le soutiennent et qui défendent l'indéfendable. Ensuite, autre chose aussi que Dédé, par exemple, il n'a pas pris la parole, mis à part Mbappé, je lui tire chapeau, malgré son jeune âge, franchement, bravo à lui. Le seul qui a ouvert le bal et personne ne l'a suivi derrière. Bon, après, il y a Laurent Blanc, il y a eu d'autres, mais je parle de l'équipe de France. Deschamps, il aurait pu quand même dire un mot par rapport à ça, mais il n'a rien dit, mais on sait que c'est des copains, donc on connaît un peu l'histoire, on a un peu compris, on n'est pas bêtes. Et je trouve ça scandaleux que ça se passe dans un pays comme la France, comme une grosse fédération, comme il vient de dire le monsieur avant moi. Autre chose aussi, voilà, donc...
Oui.
Et voilà, ce qui m'a choqué aussi, ce qui m'a un petit peu interpellé, c'est que finalement, on n'est pas dans une démocratie, puisqu'il avait dit qu'il avait préparé avec Didier Deschamps, il avait quelqu'un qui va le remplacer.
C'est ça.
Donc ça, elle est où la démocratie en fait ? Donc voilà, donc c'est la dictature. Et puis ce mec, franchement, il a rien à faire dans cette fédération. Franchement, il doit partir. S'il a un minimum de voilà, d'honnêteté, un minimum d'honneur, comme on dit, il doit partir. Voilà. Sinon, voilà.
Eh ben, merci d'être intervenu, Baya.
Pardon ?
J'ai dit merci d'être intervenu, ma chère Baya.
Eh ben, avec plaisir et merci de nous laisser justement l'occasion d'intervenir.
Ben, c'est le but.
Je vous souhaite une excellente soirée à tous.
C'est là que ça se passe, les informés, 18h, 19h30.
Super. Génial, je vous écoute tous les soirs, je suis en voiture, donc je vous écoute tous les soirs.
Eh ben, allez, bonne soirée à tous. Restez fidèles, Riyad qui nous appelle du 95. Bonsoir Riyad.
Oui, bonsoir.
Vous nous appelez de quelle ville, Riyad ?
De côté de Venise.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie ?
Je suis dans le service pétrolier.
Pétrolier, bon, on vous écoute pour Noël Le Graët ?
Oui, on va dire le Père Noël.
Le Père Noël.
Écoutez, il a plus toute sa tête, je pense, 80 ans. Ouais. Il a plus toute sa tête.
Pensez,
et de parler de Zidane comme ça, on voit bien que il n'y a pas de considération. Hein.
Ouais. Ça,
il n'est pas considéré. Dire. Donc on voit bien dans quel pays on vit, l'hypocrisie. Ah oui, c'est comme son compagnon.
Attention, ça n'engage que Noël Le Graët. Hein, il n'engage pas la France entière. Hein. Heureusement d'ailleurs.
Oui, mais il n'engage pas toute la France, mais quand même.
Noël Le Graët, c'est pas la France. Hein.
Oui, mais c'est caché, c'est comme ça, c'est la France, en général, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est... Et Didier Deschamps, c'est pareil, hein. C'est qu'ils se ressemblent, ça semble, hein. Il a gâché plein de joueurs, de carrière aux joueurs. Hein.
Bon, on pense à Benzema, hein.
À Benzema et d'autres joueurs auparavant.
Et d'autres joueurs auparavant.
Oui, et en 2020, il y a eu du racisme, il dit qu'il n'y a pas de racisme. On est bien dans un pays de racisme, hein. Je suis désolé.
Je suis pas sûr, moi, qu'on soit dans un pays raciste, je crois pas. Je ne suis pas certain.
On va pas généraliser. On va pas généraliser.
Ce que vous dites, voilà, il faut être prudent. À mon avis, il faut pas faire de généralité parce que c'est un peu trop facile.
Voilà, mais quand il dit en 2020, non, il n'y a pas de racisme.
La France n'est pas raciste, je ne pense pas. La France n'est pas raciste. Très vraiment,
elle
est
hypocrite alors.
Je le pense vraiment. Elle ne l'est pas. En revanche, il y a des personnalités, effectivement, qui le sont. Voilà.
Voilà, non, on est dans une frange, je suis désolé. Il n'y a pas de reconnaissance quand vous voyez le personnage, comment il parle. Il n'y a aucune considération vis-à-vis d'une légende. C'est, je sais pas moi, plus rien ne va. 80 ans, qu'est-ce qu'il fout encore là ? 80 ans, il est encore au poste. Il ressemble à plus rien, il est fatigué, il sourit pas, il rigole pas.
Bon.
Donc. Qu'est-ce qu'il faut encore là ? Je me le demande, qu'est-ce qu'il faut encore là ? Michel Platini ne peut pas prendre sa place.
Figurez-vous que le chef de l'État Emmanuel Macron a passé un coup de fil à Platini pour voir s'il était intéressé à reprendre la présidence, l'état-major de la fédération. Donc c'est
voilà,
en cours.
Michel Platini, ça sera très bien, c'est une légende ce gars-là.
Ça réfléchit, voilà. Ça discute.
Voilà, mais c'est aujourd'hui, je pense que Mbappé, je lui tire mon chapeau. Les autres joueurs, ils n'ont pas suivi, je ne sais pas pourquoi. Ils ne sortent pas du silence. Ils devraient parler, ils devraient dire les choses.
Il y en a plein. Il y en a plein qui ont parlé. Hein. Il y en a plein.
Oui, non, mais pas de la Coupe du Monde, de ce qui s'est passé en Coupe du Monde aussi. Noël, le Père Noël qui est au Qatar, et il a dû prendre, je ne sais pas moi, il doit avoir 1 200 000 chez lui, là, en liquide.
Ben oui, il a pris de l'argent. Il a pris cette salade, il a pris de l'argent, c'est sûr et certain.
Ne tombons pas dans la diffamation.
Et comme la députée de la Belgique, c'est la même chose, c'est la même salade.
Restons dans le commentaire, justement, de ses propos.
Voilà, c'est des personnages. C'est là, voilà, on voit bien comment c'est là. Voilà, les grosses têtes, on voit comment c'est. Voilà, c'est pas nouveau tout ça.
Merci Ria d'être intervenu. Et merci pour votre fidélité.
Allez, bonne soirée.
Et je sais que vous êtes très très nombreux, vraiment de plus en plus nombreux à nous suivre chaque soir de 18h à 19h30. 0153 48 3000 dans une poignée de minutes. Nous allons retrouver le face-à-face avec nos amis débatteurs qui sont présents déjà dans le studio. Nous allons accueillir Nadia qui nous appelle du 93. Nadia, de quelle ville du 93? Bonsoir Nadia.
Je vous appelle de Saint-Ouen.
Saint-Ouen-l'Aumône, nous vous écoutons.
Non, Saint-Ouen 93, Saint-Ouen-sur-Seine.
Saint-Ouen-sur-Seine, d'accord, j'ai compris.
C'est vrai,
Saint-Ouen-sur-Seine. C'est pas la même chose.
C'est pas grave.
Vous avez raison. Exactement. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Nadia?
Alors moi, je travaille à la ville de Saint-Ouen et je suis responsable de deux associations à Saint-Ouen.
Bon, ça se passe bien?
Très très bien, et donc ce travail de lien pour lequel on est engagé avec les habitants, avec des gens vraiment qui ont envie de partager, d'échanger, de s'occuper de toute cette jeunesse. Et ça m'a bouleversé en fait, les propos de Monsieur Le Graët m'ont bouleversé, parce que le travail de lien, ça demande beaucoup d'énergie, ça demande beaucoup de temps.
Oui.
Et Zinedine Zidane nous a fait gagner beaucoup, beaucoup de temps et d'années. Il nous a fait gagner en positivité, parce que on s'en souvient encore, c'est dans l'inconscient collectif. Il a rassemblé la France et il a rassemblé le monde. Parce que jusqu'à présent, c'est une personne qui est très aimée, très populaire. Et son parcours de réussite, pas uniquement, parce que quand il a fait gagner la France, il a fait gagner des amitiés, il a fait gagner les générations, il a fait gagner le savoir-vivre. Il a réussi ce que aucun homme politique, c'est-à-dire vraiment à grande échelle, hein, parce qu'il y a des politiques qui se battent toute l'année, mais à ce niveau-là, Zinedine Zidane, il mériterait le prix Nobel de la paix. Parce que nous, on a vu dans la rue en 2001 la manifestation contre le racisme. On sait que les Français en majorité ne sont pas racistes.
Ouais.
Moi, je travaille avec des personnes de différentes origines, différentes classes sociales, culturelles, et je peux en témoigner. Mais ce qu'a fait Monsieur Le Graët, c'est détruire ce... comment je pourrais l'appeler, cette construction d'amitié qui existe, cette fraternité, parce que Zinedine Zidane nous a fait gagner énormément de choses. Donc moi, je dis à mes jeunes, nous ne sommes pas des victimes. J'ai énormément de jeunes diplômés. C'est notre élite d'aujourd'hui. Je leur dis, tenez bon. Ne vous arrêtez pas à des propos d'un homme, parce que lui, il est effectivement, je dirais d'abord, ce monsieur est mal élevé, avant d'être raciste. Bien sûr, il y a du racisme, on le sait. Mais nous, on le combat sans violence. On le combat avec le dialogue, et on a démontré qu'on avait, parmi nos jeunes, nos enfants ont fait des études, nos enfants... je parle en général, hein, sont l'élite de demain, et donc on est dans un tous ensemble. Monsieur Le Graët, il est en train de diviser les Français. C'est pas bon. Nous, on met du lien, on tricote le chandail du lien, et qu'on nous laisse vraiment encore l'espoir de continuer ce chemin. Et Zinedine Zidane, il n'y en a pas deux, il n'y en a qu'un. Et Monsieur Mbappé, bravo, un jeune qui a autant de courage, parce qu'on sait ce que ça va lui coûter, ou pas, mais franchement, il en faut des courageux comme ça. Parce que lui, il a parlé au nom de tous nos jeunes.
Vous avez bien raison de nous le rappeler, Nadia. Merci infiniment, 18h36.
Je vous en prie, et bravo pour tout ce que vous faites. On vous suit du 1er janvier au 31 décembre.
Ah bah écoutez, ça fait plaisir, hein.
Voilà, venez à Saint-Ouen, on a ouvert un restaurant multiculturel associatif.
Et pourquoi, c'est de la belle cuisine. Pourquoi pas faire une émission en direct de là-bas?
Avec plaisir.
Les informer en direct de chez vous, tiens.
On a une vingtaine de nationalités, des femmes qui ont des talents culinaires formidables.
Vous savez quoi, vous me tendez la perche, on va venir parler des femmes. C'est très bien.
Eh bien, bienvenue, je suis assez un événement à Saint-Ouen. On a un maire génial qui nous booste aussi, Karine Douamran, notre maire. Bon. Il fait tout pour que les associations puissent travailler sur le terrain.
Merci Nadia.
Bonne soirée à tous.
Bonne soirée, 18h37 précisément, nous marquons une pause et on se retrouve tout de suite avec nos débatteurs influenceurs. Ils sont en place, ils sont tout beaux, ils sont là, ils sont ici présents, en train de profiter évidemment d'un petit pot. A tout de suite, ne bougez pas, restez avec nous.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, et les informés, présentés par Adil Farkan.
18h42, allez c'est parti, le face-à-face.
Les informés. Les informés. Le face-à-face.
Bon, allez, c'est parti tout de suite, messieurs. Philippe Medjibourier, qui bonsoir, conseiller bonsoir. Régional.
Bonsoir, Adil.
Oui, porte-parole de
l'écologie au centre.
L'écologie au centre. L'écologie au centre, ça va?
Ouais, ça va.
Tout va bien.
Il a craqué,
ouais, Anthony.
Il a fait une augmentation.
Il est vénère. Il est vénère. T'es vénère, Anthony, ou quoi?
Bah, c'est que, en fait, encore une fois, le diffuseur a planté, donc ça crée un blanc. Et donc, je pensais qu'il y avait la virgule pub, le jingle.
On est là. On est là,
La réactivité, c'est bien.
On est là,
l'équipe, on est au taquet.
Le président de l'association de la coopération franco-tunisienne, il est là, il est en costume cravate. Oh là là, beau gosse.
Merci
le mec.
Merci pour cette
pochette,
précision.
Pochette sur le côté.
Bleu, pochette. Non mais il est venu tout beau gosse là, il est. Qu'est-ce que vous faites? Vous présentez les vœux ce soir ou quoi?
Non, pas moi.
Ah, c'est vous, je croyais que c'était vous.
Non, pas moi.
Rayed Chaibi, comment
bonsoir,
ça va?
Bonsoir et bonne année, meilleurs vœux à celles de ceux
tous
qui
mes
vous écoutent.
C'est vrai, vous avez
fait
l'occasion de vous le dire. Ah, je vous laisse le soin de vous dire.
Et à Monsieur Mélouli également en face de moi, très concentré.
Monsieur le maire adjoint de Bonneuil-sur-Marne, Aclé Mélouli, comment ça va?
Toujours d'un bon pied, donc très heureux. D'ailleurs,
il parlait de l'équipe marocaine, c'est pour ça.
Très belle heureuse année, d'ailleurs, oui, qui a fait un parcours et méritant et qu'on peut saluer. Il y a pas de souci. Il faut savoir reconnaître les qualités des gens.
Ouais, Greg, ton cousin.
Greg Gagui, hein. Je suis très heureux pour Greg parce que c'est
il est rifain, donc c'est votre cousin Kabil.
Oui, mais c'est un gabien en plus. C'est au-delà que soit rifain, c'est un gabien. C'est humainement quelqu'un de bien.
Non, il est bien.
Donc voilà, donc on peut le souhaiter que de la réussite. Mais sinon, une belle heureuse année aussi à nos auditrices et auditeurs. Et puis à vous Adil et à nos personnes présentes, notamment l'écologie au centre, hein, je ne sais pas si elle est passée pas des centres pour le moment, mais et puis à la Tunisie, la Rifa Club, très heureux.
Il commence fort avec les Mélouis. Merci, messieurs. Allez, tout de suite, nous allons les mettre les pieds dans le play. 18h44, nous allons parler de Noël Le Graët. Noël Le Graët qui est convoqué demain par le COMEX, le comité exécutif extraordinaire. Ça m'étouffe. Vous rendez compte?
Il me fait tousser.
Ça va se réunir demain. Alors, justement, parlons-en. On vient de vivre depuis dimanche soir, très honnêtement, ces propos inadmissibles, inacceptables, comme disait le journal de l'équipe. Je vous ai vu tous tweeter, sortir, évidemment, sur les réseaux sociaux. Même Aclé Mélouli, il a sorti la photo avec Zizou à ses côtés. Évidemment, il a raison de porter cette fierté. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Noël Le Graët? Est-ce qu'il a vraiment craqué, ou il a dit vraiment le fond de sa pensée, ou est-ce que c'est une maladresse, comme il le dit? Et est-ce que vous réclamez tous autour de cette table cette démission? Vous trouvez cela scandaleux? Aclé Mélouli, tiens, parlons-en. Je voudrais qu'on en parle.
Oui, alors, moi d'abord, la meilleure réponse qui a été faite à Noël Le Graët, nous il est normal de s'indigner, c'est effectivement Zidane par le silence. Mmh. Je crois qu'il n'y a pas pire mépris que le silence. Parce que c'est méprisant ce qu'il a fait. Moi je pense qu'il a dévoilé le fond de sa pensée, ça fait plusieurs fois qu'on tourne autour du pot, mais je pense qu'en France, alors je l'accuse pas lui, mais je pense qu'en France il y a une banalisation du racisme, c'est un racisme ordinaire.
Et ça intervient juste quelques jours après les tirailleurs, voilà, les propos d'Omar Sy. Hein.
Vous l'avez vu, dès qu'Omar Sy dit quelque chose, hop, on dit mais qu'est-ce qu'il a à remettre en cause la France.
Exactement.
Zidane qui ne dit rien, il est remis en cause parce qu'il aurait voulu entraîner l'équipe de France, parce que c'est comme si qu'il avait commis un crime de lèse-majesté de vouloir supposer qu'il aurait pu l'entraîner. Et comment quelqu'un comme Le Graët, qui sort de nulle part, même s'il a fait quelque chose à Guingamp à l'époque, mais il n'a pas gagné le championnat, non plus tout, qui peut-il remettre en cause quelqu'un qui a gagné tout en tant que joueur et tout en tant qu'entraîneur? Il y a très peu de gens dans le monde, à part Cruyff et d'autres, des grandes stars, qui ont été aussi bons joueurs qu'entraîneurs. Et Zidane cumule les deux. Donc ce garçon est un véritable ambassadeur pour la France. Il est un ambassadeur, un des plus bels ambassadeurs que l'équipe de France de foot, que la Fédération française puisse avoir. Et comment on peut manquer de respect à une personne comme Zidane qui ne manque de respect à personne. Zizou, c'est quelqu'un qui est humble, qui a de l'humilité, qui d'ailleurs qui
s'est très peu. Vous avez échangé avec lui, vous ?
Oui, et ben on est du même coin, du même patelin, mais ça n'enlève rien. Mais en plus, mais c'est vrai que c'est quelqu'un, son père Smaïl déjà est quelqu'un
quand
très réservé.
Du même patelin, c'est de la Kabylie.
Ouais, la Kabylie. Mais son père,
qu'on aurait pu comprendre,
et comme la mère
de Marseille.
Voilà, mais de Marseille. Et son père déjà, même sa mère Smaïl, ce sont des familles. Donc c'est quelqu'un qui est en fait. Qui est très humain, très accessible. Et cette attaque, on comprend pas. En plus, elle sort de nulle part. Le gars, on lui demande juste s'il allait entraîner. Et c'est, ça, il l'aura insulté. Ça aurait été moins pire que les propos qu'il a tenus. Parce que les propos qu'il a tenus sont graves. Et sont d'autant plus graves que ce triste sire est quand même sous le coup de nombreuses accusations. D'ailleurs, ça commence à remonter. Donc, il ferait bien il aurait déjà dû démissionner depuis très longtemps. Donc, effectivement, il serait bon pour le football français et pour l'image de la France, que ce genre de personnage ne les représente pas.
Philippe Nedjiboyaki. Alors.
Moi, j'ai envie de dire merci à Noël.
Oui.
Grâce à lui, il a réconcilié la France entière. De Jordan Bardella à Jean-Luc Mélenchon, tout le monde est monté au créneau pour défendre Zizou.
Jordan Bardella, c'est vrai qu'il a fait fou.
Non, mais c'est
ça s'appelle la dédiabolisation. Dans les termes du RN, c'est la dédiabolisation.
Peu importe. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il a fait un strike. Tout le monde face à lui, enfin c'est un truc de fou ce qui et puis tant mieux. Et puis ce que je veux dire par là, c'est que Zizou Monsieur Zinedine Zidane, c'est comme la Tour Eiffel, c'est un monument de France et respect à Kylian Mbappé. Les autres, ils sont où?
Avec son tweet, ouais.
Non, mais il y a d'autres joueurs en équipe de France là en ce moment où
oui, ils sont... quelques-uns.
Il y en a quelques-uns.
Oui, heureusement
cas,
d'ailleurs.
En tout cas, Kylian juste un grand respect et il a mis tout le monde d'accord et moi je pense que c'est une question de
il a même fait réagir la ministre hein.
bien sûr
sport, tout, hein, qui a dit
moi je pense que c'est une question
Kylian,
d'heure c'est une question d'heure
respect avant, Kylian avant, à la fin elle a dit ça
avant que Noël Le Graët démissionne et évidemment bien sûr je demande la démission de cet homme pas parce qu'il s'est attaqué à Zizou ou qu'il s'est attaqué à Nikon il s'est attaqué avec l'homme qui a réconcilié la France en 98 cette France dont on est tous fiers et qu'on a tous envie de revivre et de rêver ces moments de fraternité et de communion nationale. Zizou, il a un palmarès qui parle pour lui en tant que joueur, comme il a dit à Klim, mais aussi en tant qu'entraîneur.
Il a tout vu, il n'a
rien à prouver. Et effectivement, à un moment donné, moi je salue le geste d'Aimé Jacquet qui a dit « Bon, ben voilà, j'ai eu ça, bon maintenant je m'en vais ». Deschamps devrait faire pareil et laisser la place à du 109 et à quelqu'un qui a un palmarès extraordinaire. Pas que j'ai un problème contre Deschamps, il a fait 3 finales, il en a gagné une. Donc Zizou, il a fait 5 finales, il en gagne 5. Donc maintenant, place au renouveau et puis ça serait un juste retour de la reconnaissance nationale de nommer Zinedine Zidane en tant que sélectionneur national.
Right, JB, justement.
Bah, moi, je suis assez.
Avant de parler justement de la classe politique.
Je suis assez d'accord avec ce qui a été dit par Akli et par Philippe. En plus, au-delà d'avoir créé une communion dans la classe politique, il a réussi à faire oublier la réforme des retraites pendant 24 heures.
Mmh. Donc,
c'est aussi un autre exploit de la part de Noël Le Graët. D'ailleurs, je pense qu'il mériterait même de prendre sa retraite d'office parce que. Il accumule, je dirais, beaucoup de bêtises depuis un certain temps. Je pense qu'il y a aussi un laisser-faire. Ce qui d'ailleurs se pose la question peut-être d'un âge, je dirais, limite pour présider la Fédération Française de Football, quand même. Il faudrait peut-être aussi se pencher sur cette question-là, en tout cas, eux en interne. Mais je pense que cet homme doit absolument quitter ses fonctions au-delà de la polémique sur Zidane qui est absolument inqualifiable et je pense que le tollé qui a été soulevé mais mérite amplement ça nécessite pas qu'on en dise plus mais avec tout ce qu'il y a également autour notamment sur son comportement vis-à-vis des femmes et on a vu aujourd'hui le témoignage de hier je crois Sonia Swede. Je pense que sa place mérite clairement d'être laissée. J'espère que demain les membres du comité exécutif, je crois, ça s'appelle comme ça, prendront la décision, en tout cas le pousseront vers la sortie. Mais je pense que ça aurait dû être fait depuis bien longtemps. Après, sur les réactions au sein de l'équipe de France, moi, il y a une réaction que, je m'attendais à une réaction de sa part, mais il l'a pas eu. C'est celle de Didier Deschamps, quand même, qui est l'actuel sélectionneur. En titre et qui est amené à l'être encore jusqu'en 2026. Je suis assez déçu, surpris de l'absence de réaction de la part du sélectionneur.
Mais qu'est-ce qu'il peut dire pour son président? Est-ce qu'il aurait dû réagir?
Le président vient de le reconduire sans l'avis des autres, il vient de le reconduire.
Qui a quand même, si je peux finir, qui a quand même été un de ses, comment dirais-je, coéquipiers sur le terrain. Aucune réaction de sa part. J'étais assez surpris, pour ne pas dire déçu. Quand on sent également, parce qu'il fallait entendre également l'interview qu'il avait donnée, je crois, chez vos confrères de RMC, il suintait le mépris. C'est-à-dire qu'on a même l'impression que tout a été fait pour qu'il n'accepte pas au poste de sélectionneur national. J'espère qu'un jour qu'il le saura et qu'il fera gagner.
Didier Deschamps complice?
Je dirais pas complice parce que je n'en ai pas les preuves, mais je regrette qu'il n'ait pas eu une réaction, comme on vient de le dire à l'instant à Cli. Il a été trop silencieux.
Alors justement, parlons-en. Pourquoi Didier Deschamps ne sort-il pas de ce silence? Est-ce qu'il a il flippe, il a peur? Est-ce que il veut pas se mouiller? Est-ce que il craint justement? Est-ce que c'est parce que c'est son président?
Bah, c'est lui-même qui l'a dit. Mon président m'a renouvelé.
Mon président. Et d'ailleurs, ce qu'on a lu, c'est que moi, je suis pas dans le secret des saints, mais c'est qu'il l'avait fait de façon unilatérale, c'est-à-dire que il n'en a même pas informé ou consulté son COMEX, d'ailleurs, qui se réunit demain. Mais je crois que Didier Deschamps, comme on dit, moi, je connais une formule qui est d'ailleurs 100% française, hein, de ma culture, c'est qui ne dit mot consent. Et donc, s'il ne dit rien, c'est qu'il consent aux propos tenus. C'est comme ça. D'accord. Les gens qui ne dénoncent pas, c'est qu'ils sont d'accord. Vous savez, il y a pas pire que les silences complices. C'est ceux-là les plus dangereux. C'est tous ces silences complices qui font qu'aujourd'hui notre société elle va à volo. C'est comme pour le racisme, comme des choses.
Parce que tout simplement il craint pas, parce qu'il a pas envie de se mouiller, parce que c'est son président.
C'est son président.
Qu'est-ce qu'il peut dire sur son président?
Alors Adil, ça veut dire qu'effectivement les gens ce sont des serviteurs, ce sont des vassaux. Donc il n'a pas de valeur, il n'a pas d'éthique. Comment, quand on n'a pas de valeur et pas d'éthique, on peut diriger une équipe ou manager des joueurs? Parce qu'on doit leur insuffler quand même des choses, des valeurs. Le sport, c'est des valeurs. Moi, je suis désolé. Et à un moment donné, Larbi Ben Boudaoud, par exemple, que je salue, il avait un désaccord de ligne avec la Fédération Française de Judo. Il a démissionné de son poste de directeur technique national. Et à un moment donné, il faut du courage. Soit on est en phase, soit on n'est pas en phase. Et moi, je le dis, ceux qui n'ont rien dit ou qui ne se sont pas exprimés, notamment ses coéquipiers de l'équipe championne du monde 98, sont complices ou approuvent les propos. Voilà, il faut qu'ils s'expliquent.
Ouais, attention, il y a eu beaucoup de déclarations évidemment de l'époque 98. Hein,
non, mais je sais, mais je dis ceux qui n'ont rien dit. Ceux qui n'ont rien dit.
Philippe Nadjiboye, qui justement sur Didier Deschamps et sur le fait qu'on ne l'entende pas, effectivement, on ne l'entend pas.
On ne l'entend pas parce que...
C'est mystérieux?
Non, mais je pense qu'il est en Bulgarie en train de se refaire les dents et comme... La bouche. Non, mais c'est plus sérieusement, c'est pas normal, son silence. C'est une blague sans nom. Enfin,
alors que le Conseil national, justement, réclame la démission de Noël Le Graët.
Oui, mais je te dis, c'est une question d'heure. Je ne peux pas vous dire comment je le sais, mais disons qu'avant vendredi, c'est réglé cette histoire.
Demain, on le saura.
Il y a entre demain et jeudi, ça devrait tomber.
Il aurait déjà dû tomber pour toutes les accusations qu'il a et tous les dossiers. Il aurait déjà dû être mis en retrait en attendant de prouver son innocence ou pas. Moi, je suis pas pour aller plus vite que la justice. Parce que la justice, elle fait son travail. Mais il aurait dû se mettre en retrait pendant le temps de l'enquête et tout. Ça s'appelle de la décence.
Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Pourquoi? Parce que il y a un truc qui fait foi.
Non mais Philippe Nadjiboye.
Vous allez répondre. Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas déclarée coupable. La présomption de culpabilité, ça ne doit pas être la règle d'or. Sinon demain on est tous fichus. Et si demain il y a 2-3 personnes qui disent qu'Akli s'est mal comporté à la mairie, tu devrais démissionner de ton poste le temps de l'enquête. Pas normal.
Moi je te dis juste. La question, c'est que après, ça dépend du poste, les postes et tout ça. Bien sûr qu'il faut se mettre en retrait.
Pas du tout.
Moi, je pense que le temps qu'effectivement qu'il prouve, parce que apparemment il y a enquête tout ça.
D'ailleurs, la ministre des Sports elle-même.
Mais
si l'enquête dure 5 ans, si l'enquête dure 6 ans.
Oui, mais Philippe, je finis. Il y aura toujours un doute. Tu ne peux pas être exemplaire. L'exemplarité, c'est important quand on a des grandes responsabilités.
Attendez, écoutez-vous les uns les autres. Philippe Nadjiboye, développé.
J'ai beaucoup d'estime et de respect pour Akli. Moi, c'est un de mes mentors en politique, je le dis clairement, et je serai toujours loyal et fidèle, et je serai un partisan, et je serai jamais un courtisan. En tout cas, je suis un partisan de Akli Mellouli. Mais là-dessus, je peux pas être d'accord. Parce que, le doute, bénéficie toujours à l'accusé. toujours. C'est du droit. Moi, ce qui fait foi, moi, dans mon pays, ici, la France, c'est la Constitution, c'est le droit, et c'est la loi, c'est la République. Et la République, elle est une et indivisible, et elle doit être la même pour tout le monde. C'est-à-dire que je ne peux pas réclamer sur les propos qui ont été tenus, les accusations de Noël Le Graët, sa tête. Je réclame sa tête sur les faits et les agissements qu'il a fait. Il a touché à Zidane, il a eu un mépris total pour cet homme qui a apporté beaucoup à la France et au rayonnement de la France. Donc, point barre. Là-dessus, oui. Sur le reste, il y a une enquête, des gens vont être auditionnés, il faut des preuves, il faut des machins, etc. Je ne reviendrai pas sur l'histoire de Sonia Swid parce que moi je peux pas conclure tout de suite sur les choses et dire que parce que t'as fait une drague peut-être même lourde et à ce moment-là faut le remettre en place que parce que t'as dragué quelqu'un donc forcément t'es un harceleur. Le harcèlement c'est quelque chose qui est caractérisé, qui est répétitif et qui est chronique, et donc je veux bien remettre les choses dans leur contexte, et j'ai toujours un peu de mal avec les choses qui arrivent brutalement d'un seul coup en moins de 12 heures. Il y a un témoignage de quelqu'un qui a gardé des enregistrements, des trucs, des machins. J'aimerais bien avoir tous les éléments et les contextes, parce que quand on t'invite chez quelqu'un en la présence de quelqu'un et que cette personne ne vient pas, je comprends que tu peux être surpris, etc. Et elle le dit elle-même, il n'a pas essayé de la retenir de force, etc. Il a été insistant sur envoyer des messages. Est-ce que derrière ou en face, je veux pas être son avocat, mais est-ce qu'il n'a pas eu des signes qui lui ont permis de dire tiens, je peux continuer? Est-ce qu'elle nous montre les messages que lui elle lui a envoyé? Tu sais, moi depuis l'affaire de Média Khalat, je me méfie de plein de choses, mais il faut considérer que les propos, et c'est sur ça que moi je juge Noël Le Graët, les propos qu'il a tenus sont inacceptable. Et je reviens sur ce que a dit tout à l'heure Rayed. Je pense qu'il y a un racisme décomplexé qui est complètement assumé, qui aujourd'hui se dit bon, on peut taper sur les, on va dire clairement, sur les beurs, sur les Arabes ou sur les musulmans. De toute façon, on nous donnera au mieux la Légion d'honneur. Mm-hmm. Et c'est une réalité. Et je pense que Noël Le Graët.
Au pire, la Légion d'honneur.
Au pire, la Légion d'honneur. Et donc, il était dans cette mouvance-là. Et ça serait bien que, grâce à ça, on passe à une autre.
Et on passe au sujet suivant, celui de la réforme des retraites.
Je comprends, Philippe a raison de mettre des garde-fous. Moi, je disais juste que ce garçon, il n'aurait pas dû être introduit, et on l'aurait même pas, depuis, avec ce qu'il a derrière, il aurait mieux fait de faire profil bas et de se mettre en retrait. Mais après, bien sûr qu'il faut que la loi, et c'est pas à nous de faire justice.
Bien
la
sûr.
Justice, sinon on n'est plus dans une démocratie. Le droit doit s'appliquer. Mais en l'occurrence, cette personne se croit intouchable. Et donc, ce qui fait, vu son comportement, ça m'inquiète sur la suite d'enquête, parce que ce genre de comportement montre que ce gars est hors sol. Il est dangereux. Il est dangereux pour lui, il est dangereux pour les autres, il est dangereux pour l'image de la France, il est dangereux pour tout. Donc, en fait, du coup, ce qui hier était, où j'avais pas crié au loup et tout ça, aujourd'hui, je me dis, quand même. Et donc, quand t'es obligé de donner de l'exemple, parce que dans le sport, c'est l'exemple, l'exemplarité. Quand t'as quelqu'un qui est touché comme ça, même s'il est, je dis pas qu'il est condamnable et tout ça, je laisse ça juste faire, mais je me dis, à un moment donné, comment il peut être crédible? Comment on peut être crédible? C'est ça, parce que si on veut donner l'exemple à des jeunes, si on veut donner l'exemple et tout ça, en plus, il y a un vrai travail important à faire sur le sport féminin. Si déjà là-dessus, on a des gens qui sont entre guillemets touchés par le sexisme, parce qu'au-delà de ce qu'on leur reproche, il a des comportements apparemment, il disait c'est sexiste et tout ça. Donc à un moment donné, ça pose question sur l'image véhiculée par la Fédération française de football.
Alors messieurs, nous allons passer au sujet suivant, c'est celui de la réforme des retraites avec le recul justement de l'âge de départ à 64 ans. Et bien justement messieurs, vous savez quoi? Elle vient de tenir, Elisabeth Borne, la première ministre, une conférence où elle a fait une série d'annonces où elle parle de l'âge légal à partir duquel il est possible de partir à la retraite, qui sera progressivement relevé à partir du 1er donc septembre 2023, mais également aussi, vous savez quoi, retraité fixé à 63 et puis ensuite à 64 ans en 2030. Messieurs, je vous laisse commenter justement, vous savez, ces annonces faites il y a à peine quelques minutes par Elisabeth Borne, la Première Ministre, concernant cette réforme des retraites. Alors, ça passe ou ça casse? Akli Mellouli.
Alors, d'abord, il y a beaucoup de subtilité dans ce qu'elle a présenté pour piéger les uns et les autres et pour le truc. Mais
ah bon?
Aujourd'hui, oui, parce que l'âge à 64 ans, elle sait qu'il y en a qui s'intéressent. Et puis, aujourd'hui, la réforme Touraine va amener l'âge pivot. Aujourd'hui, Adil, en partant à l'âge de 62 ans, là, actuellement, tel qu'il est, vous savez que pour partir à taux plein, c'est 67 ans. Le problème de l'injustice, c'est qu'aujourd'hui, il y a un rapport qui dit qu'il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas à réformer la retraite, c'est viable, c'est fiable, etc. Donc, à un moment donné, on est dans le dogmatisme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pourquoi on veut se précipiter? Pour dire, j'ai fait la réforme. On en a fait des tonnes de réformes de retraite. Toujours pour aller dans le mauvais sens. Et donc, aujourd'hui, le problème qu'il y a, il ne règle pas. Entendu, je vais pas les rester à tout le monde. Et après, quand on nous dit, il faut faire un comparatif avec l'Europe, Adil. Excusez-moi.
Les Allemands, l'Espagne, l'Italie.
Mais il y a aucun comparatif possible. Ils n'ont pas le même système. Pourquoi ? Le système français est un système basé sur la solidarité. C'est comme la sécu, etc. Personne. Donc on ne peut pas comparer des carottes, des choux et des navets et disant c'est dans ce sens-là qu'il faut aller. Chacun a son système. Si effectivement aujourd'hui ce gouvernement veut détricoter le système qui a prévalu à la, français, c'est comme ça qu'on a créé la sécu et tous ces dispositifs pour justement protéger ceux qui ont des trous dans la raquette. Et si certains pensent qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui ils ont les moyens de payer, ils peuvent se sauver en larguant une partie de la population, et que c'est une erreur parce que demain, ce sera peut-être eux qui auront besoin de ce filet de protection. Eh bien, si on veut changer ça, il faut le dire clairement en français, parce que au-delà de la réforme des retraites, on est dans un dogme, et on va le voir tout à l'heure, vous allez voir avec les augmentations, etc. À un moment donné, si on tue le pouvoir d'achat, oui, si on ne donne pas, et si effectivement, on veut faire travailler les gens plus longtemps, mais qu'on est incapable de les employer, on tourne en rond, ils vont être au chômage, ça va être encore un coup. Donc à un moment donné, il faut qu'on arrête le dogmatisme, il faut réformer, mais pas réformer de façon injuste.
Donc si j'ai bien compris, vous êtes prêt à la bagarre.
Il faut.
Vous êtes dans l'opposition.
Et par contre là, Philippe tout à l'heure saluait le GRED qui avait rassemblé la France. Moi je voudrais rendre hommage à Emmanuel Macron, qui depuis 12 ans, il n'y avait pas eu de front syndical, a réussi à fédérer tous les syndicats. Je crois que Macron est un grand fédérateur et je voudrais saluer son engagement pour créer l'intersyndicale qui manquait. Et j'espère que cet intersyndicale qu'il a
beaucoup de boutades.
Et j'espère que cet intersyndicale qu'il a réussi à recréer va continuer à travailler parce que on a besoin de syndicats forts, on a besoin de voix fortes et on a besoin d'eux pour mener les batailles parce que les choses vont pas s'annoncer. Et vous allez voir tout à l'heure, on va parler d'augmentation. Si le sens du progrès de ce gouvernement, c'est d'augmenter de plus en plus les charges, les coûts, etc., et de baisser les salaires et d'augmenter le temps de travail ou la durée du travail des gens, eh bien c'est un projet de société auquel je ne peux pas adhérer.
Justement, on va faire un tour de table. Je voudrais juste qu'on diffuse un petit extrait justement de la Première ministre Elisabeth Borne sur les annonces tout à l'heure diffusées. Écoutons.
Par rapport au nombre de retraités, c'est un fait, pas un argument politique. Nous devons être capables de regarder la réalité en face et de trouver des solutions pour préserver notre modèle social. J'ai bien conscience que faire évoluer notre système de retraite suscite des interrogations et des craintes chez les Français. Nous voulons y répondre et convaincre. Ce sujet n'est pas nouveau. Il a fait l'objet de très nombreuses discussions au cours du précédent quinquennat. Un projet ambitieux avait été présenté par Édouard Philippe. Il avait suscité à la fois des attentes et des contestations. Nous avons appris de cette période et nous en avons tiré les conséquences pour bâtir ce projet.
Donc passer coûte, Philippe Nedjibourouyaki ?
Bah là c'est clair, mais de toute façon ils n'auront pas besoin de passer coûte, puisque visiblement la droite est prête à voter avec eux. Il y a une incompréhension.
Oui. Enfin, dites-nous, laquelle ?
On nous dit en vérité, il faut augmenter.
Il faut travailler 43 ans, ça on le sait.
Il faut augmenter l'âge de départ à la retraite parce qu'on vit plus longtemps. Ça, c'est quelque chose qui peut être entendable. C'est-à-dire parce que sinon, on va créer un déficit, etc. Bon, bah, allons au déficit. Le déficit, il est quand ? Il est en 2030 et il sera 12 milliards. Moi, j'ai une solution, et pourtant, je ne suis pas un gauchiste. L'année dernière, le 440, c'est 80 milliards. Si on est taxé de 12%, l'histoire est réglée. Si on augmentait la TVA sur les produits de luxe, par exemple, quand je vois qu'il y a des gens qui font la queue pour une malle à 200 000 euros, Louis Vuitton, il faut que je dise une autre marque, moi, pour Ferrari ou pour Bentley, je ne pense pas que ça va nous faire du mal à nous, à ceux qui ont du mal à joindre les deux bouts. Et puis, on peut entendre dire, bon, écoutez, on vit plus longtemps, donc on va travailler plus longtemps, mais par contre, on va adapter à partir d'un certain âge, le temps de travail. Genre, quelqu'un qui a 60 ans jusqu'à 65 ans, on va dire 60 ans à 62 ans, il travaille 8 mois par an, et sur les 8 mois, il est en tant que tuteur pour former quelqu'un qui va prendre sa place et le relais. Et ça, c'est entendable. Mais quelqu'un qui casse des cailloux du matin au soir, qui arrive à 55 ans, qui est brisé, comment voulez-vous que lui puisse toucher une retraite à taux plein? Mais vous voulez le tuer, c'est quoi l'objectif? C'est comment on soigne mieux? Bah, du coup, on va vous faire en sorte que vous mouriez dans les 6 mois que vous touchez à votre retraite. Parce que la vérité, elle est là. Ceux qui travaillent les métiers les plus pénibles, leur espérance de vie.
Donc vous êtes dans l'opposition, vous aussi?
Bah là, du coup, ouais, moi je me retrouve dans l'opposition. Moi je veux bien accompagner le gouvernement sur des choses lorsque elles sont dans l'intérêt général, mais pas lorsqu'elles sont injustes. Et cette réforme est injuste. Mmh. Elle est réellement et foncièrement injuste. Donc taxer les profits, voilà, les gauchos vont être contents d'entendre mes propos, mais on peut pas faire ça. C'est pas possible. C'est pas concevable.
Raïs Chaibi, vous dites quoi justement, vous?
Je pense qu'elle était indispensable.
Elle est indispensable.
Elle était indispensable.
faut regarder aussi à peu près aussi l'histoire. Là où auparavant, il y a 30 ou 40 ans, on avait 3 actifs pour un retraité, aujourd'hui on a un quasiment 1 pour 1, pour ne pas dire 1 pour 1. Donc la réforme, elle est inévitable. Elle est inévitable. Maintenant, on ne peut pas reprocher à Elisabeth Borne d'avoir en tout cas construit, bâti un projet dans la concertation, le dialogue et surtout dans la douceur et non pas dans la brutalité. J'observe par ailleurs que elle est prête à faire évoluer le projet dans le cadre de la discussion, parce que là c'est une présentation du projet mais il n'a pas encore été adopté, donc on verra quels seront...
Il faut qu'il soit débattu aussi.
C'est pour ça que je dis qu'elle était prête à faire évoluer le projet. Elle l'a annoncé d'ailleurs il y a quelques minutes pendant qu'on était en train de vous suivre. Le dispositif, ce que je retiens, le dispositif des carrières longues qui sera adapté, la fin progressive des régimes spéciaux, le congé parental qui sera pris en compte, les aidants familiaux qui bénéficieront de validation de trimestre. Donc il y a quand même, je dirais, quelques avancées intéressantes dans ce projet, mais effectivement il faut tenir compte de la pénibilité, il faut tenir compte également de l'état physique et moral également de celles et ceux qui sont sur le marché du travail, parce que le monde du travail d'aujourd'hui n'est pas le monde du travail d'hier. Donc je pense que réformer nos retraites est indispensable. Elle le fait dans la douceur, elle le fait dans le dialogue. On verra maintenant, il y a le temps du débat au Parlement, et je pense que cette réforme, elle est indispensable.
Est-ce que ce débat aura lieu justement au Parlement? C'est ça la question qu'on se pose.
Un dialogue avec un 49.
Je vais distribuer la parole. Est-ce que ce débat aura lieu?
Un dialogue apaisé et serein avec un 49.3 au-dessus de la tête, c'est pas vraiment. C'est comme si je vous disais, Adil, signe avec un 49 mm au-dessus de la tempe. Mais évidemment, vous avez signé. Là où je reviendrai sur un truc que Riyad vient de dire. D'ailleurs, il a souvent une analyse intéressante. Mais on parle des régimes spéciaux. Mais les régimes spéciaux, ils sont excédentaires. Pour quelle raison vous voulez abolir les régimes spéciaux? Enfin, expliquez-moi. Pourquoi vous voulez faire un seul régime? Non, parce qu'on veut prendre l'argent qu'il y a dans les régimes spéciaux pour le mettre dedans.
Et ben,
la vérité, c'est pas un problème qu'il y a 1,7 cotisant pour un retraité. C'est la vérité, c'est qu'on a 6 millions de chômeurs. Là, voilà la réalité. Voilà. Faites bosser les 6 millions de chômeurs et vous allez faire tout. Voilà. Ouais. L'équation, elle est simple.
Si c'était aussi simple.
Écoutez, 42 milliards de CICE.
Riyad, tu as raison. Je sais que tu étais opposé au truc. Mais Riyad, là aussi, on est dans le simplisme. Alors, si je peux dire, si on dit, c'est aussi simple. À un moment donné, ils veulent faire du plein emploi. Donc, il faut qu'ils soient cohérents. Et aujourd'hui, Philippe vient de le dire. En fait, elle n'est pas utile, la réforme des retraites. Ils veulent utiliser l'argent des retraites, les 15 milliards qu'ils veulent récupérer, en fait, pour financer les projets et le quoi qu'il en coûte. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de faire ça parce qu'on ne va pas finir par mentir aux Français. Donc, moi, je pense qu'elle n'est pas. D'ailleurs, au passage, j'ai oublié de le dire, c'est l'anniversaire de ma fille aujourd'hui, donc je voulais souhaiter
l'anniversaire
à ma fille quand même. Et je suis là à la radio,
qui est rentrée
à la maison. Non, j'ai percuté ce matin, mais là, je dois rentrer pour la table parce qu'elle m'a envoyé le message.
Elle vous écoute,
donc,
j'espère.
Et donc, Adil, et donc, effectivement, moi, je ne veux pas laisser à nos enfants, parce que je pense que, effectivement, la question, c'est, faut-il réformer le pays? Oui, il y a des réformes. Il faut réformer le système qui est injuste, fondamentalement. Dans quel sens? C'est là où on diverge. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à réformer dans ce pays. Mais on le voit bien aujourd'hui. Le système de santé, tout ce qui était l'héritage qu'on avait cette solidarité à la française est en train d'être bafoué. Vous savez que le débat sur la Sécu, au départ, la Sécu, ça a été créé pour dire les gens cotisent en fonction de leurs moyens et se soignent en fonction de leurs besoins. Mais comme on voulait pas, il y en a qui étaient pour la Sécu à 100%, on a mis des mutuelles. Aujourd'hui, rien que le fait des mutuelles, qui sont pourtant pas des trucs d'économie très très libérale, même si, eh bien, le coût des mutuelles aujourd'hui impacte les foyers. Et qui aujourd'hui ne peut pas se payer la mutuelle? Les plus démunis, les plus en difficulté. Donc à un moment donné, ces réformes, quand elles sont injustes, et qu'elles vont peser, parce qu'elles vont peser sur qui pour avoir le taux plein? Sur ceux qui ont les trous dans la raquette, ceux qui ont le plus de difficultés, ceux qui sont le plus éloignés de l'emploi. Tout cela, eh bien, effectivement, voilà, des questions déconstruites, c'est ce que je disais, c'est les trous dans la raquette, etc. Eh bien, c'est sur cela, la pénibilité, elle est mal prise en compte. Elle a été prise en compte lors de la réforme, mais pas assez. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, si les réformes ne donnent pas plus de justice, elles ne sont pas comprises et elles ne vont pas dans le sens de l'histoire.
Et j'irai même plus loin quand on parle par rapport aux emplois. Le CICE, c'est 42 milliards, c'est 1 500 000 emplois payés à 1 500 euros net par mois. L'évasion fiscale, c'est 100 millions d'emplois. Et donc, vous voyez, rien que là, je viens de créer 4 500 000 emplois gratuits de fonctionnaires, de profs, de responsables de la santé, etc. Juste en l'évasion fiscale et le CICE. Vous rajoutez à ça la fameuse ISF qui était de 5 milliards. Enfin, voilà, s'ils ont besoin de conseils, on peut leur donner. Nous, on était prêts à participer au Conseil national de la refondation, là. On nous a toujours pas invités. Je trouve ça bien dommage parce qu'on avait plein de propositions à l'écologie au centre.
Vous voulez réagir, Raïd Chaibi?
Elle est inutile.
Non, non, mais tout à l'heure, Akli parlait de la pénibilité. Il y a une mesure d'ailleurs qui a été annoncée par Elisabeth Borne sur la pénibilité. Mais encore une fois, c'est un projet qui est amené à évoluer. Donc il y a le temps du débat. Les parlementaires devront également assumer leurs responsabilités, être force de proposition et pas être des forces de blocage. Parce qu'encore une fois, on peut être, comment dirais-je, nostalgique de ce qu'était la France il y a 40 ou 50 ans, mais il y a une réalité aujourd'hui qui n'est plus la même qu'hier.
Absolument. 19h, bientôt 12 minutes. Nous allons marquer, vous savez quoi, la dernière pause pub et on se retrouve tout de suite après pour la dernière ligne droite avec justement nos débatteurs influenceurs. Si vous voulez réagir, bien sûr, vous êtes les bienvenus au 01 53 48 3000.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h, 19h30. Les informés, présentés par Adil Farkan.
Le face-à-face, 19h15, dernière ligne droite avec Philippe Nadjiboyaki, qui nous fait rire pendant les coulisses, justement. Et Rayed Chebbi, enfin, Akli Mellouli.
Les informés. Les informés. Le face-à-face.
Allez, messieurs, tout de suite, juste un petit tour de table. Alors, cette histoire de 64 ans, donc ça va pas passer pour vous, hein, selon vous. Ça va être très compliqué, avec très peu de débats. Hein. Juste un tour de table avant de passer aux deux autres sujets qui nous attendent. Allez, Akli Mellouli.
Non pas Saran, hein, les gens l'ont dit, enfin, je sais pas, à moins de ne pas vouloir entendre, d'être sourd ou de faire l'autruche, ça a été dit. Je pense que, d'ailleurs, on va venir, je pense, sur les gilets jaunes, on n'en parle pas là, mais.
On va en parler.
Moi, je dis, cette réforme ne passera pas. 62 ans, c'est déjà énorme. 62 ans pour partir à taux plein, c'est 67 ans. À 64, 65 ans, vous allez partir à quoi? À 70 ans?
Philippe Nadjiboyaki?
Ouais, malheureusement, ils ont fait le compte, ils ont les voix pour les faire passer.
Avec la droite, vous voulez dire, les républicains.
Oui. Non, ouais, attendez, clairement. Je parle là à l'Assemblée, ouais. Mais dans la rue, il y a le vote de la rue. Et dans la rue, si comme je le pense, ça va se tendre très fort, à mon avis, ils ne vont pas avoir des lendemains qui chantent.
Rayed, Chebbi ?
Dans les faits, au Parlement, puisque c'est là-bas où tout va se passer numériquement, je pense qu'il pourrait avoir une majorité. Après, on va voir la réaction... De la rue. Comme le dit Akli, et on verra si la mayonnaise va prendre et si le mouvement dans la rue qui s'annonce fera ou non flécher le gouvernement.
Mais ça, messieurs, Akli Mellouli faisait référence aux gilets jaunes. Justement, on va en parler, le mouvement des gilets jaunes. Est-ce qu'il s'est épuisé malgré la contestation, vous savez, qui beaucoup pensaient qu'elle allait prendre forme justement samedi dernier, selon le ministère de l'Intérieur, eh bien, c'est 4700 manifestants partout en France, 2000 à Paris, ça c'est selon les chiffres évidemment communiqués par le ministre de l'Intérieur. Est-ce que, justement, un petit retour sur cette mobilisation, est-ce que c'est l'essoufflement des gilets jaunes? Est-ce que c'est la fin des gilets jaunes? Est-ce qu'il s'agit, on peut parler d'un véritable flop à Akli Mellouli?
Alors moi, je ne crois pas. Il y a deux, effectivement aujourd'hui...
Trois ans plus tard.
Il y a quand même trois ans plus tard.
Que reste-t-il trois ans plus tard?
Trois ans plus tard, il y a une première sortie. Donc symboliquement, il y a quand même des gens qui sont sortis. Ça montre qu'il y a encore de la souffrance et de la misère. Mais ça montre aussi qu'il va y avoir de la ressource avec les retraites. Je pense que le vrai redémarrage des gilets jaunes avec les syndicats, ce sera sur lors des premières manifestations pour la retraite. Donc là, on aura effectivement un redémarrage. Donc moi, je trouve que symboliquement, on les attendait tout ça, le fait de venir, on était plus dans la symbolique. Et ça montre encore que quand même, mais je dirais qu'il y a déjà quand même 4700, alors ils sont pas tous venus, mais ça veut dire qu'il y a déjà 4700 personnes de trop dans la rue. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont mal, donc on montre la souffrance. Ça dépend comment on se place, si c'est selon la police ou selon les humanistes. Donc voilà, donc, nous, à un moment donné, moi je crois que symboliquement, ils sont sortis, ils ont montré qu'ils étaient prêts à ressortir, et vous savez, si vous connaissez le phénomène de la boule de neige. On peut nous partir, mais nous vîmes arriver tout ça. Et donc, je pense qu'avec les retraites, les gilets jaunes, eh bien, il va y avoir un rebondissement.
Vous pensez vraiment que ça va rebondir?
Moi, je pense que ça va rebondir. Je pense que c'était un petit tour de chauffe. Symboliquement, qu'il soit là, j'ai trouvé que c'était déjà, moi, symboliquement, j'ai trouvé que c'était fort comme message de venir, même peu nombreux, mais de venir et de dire on est là. On est trois ans après, avec tout ce qu'on a vécu, tout ce qui s'est passé, on est encore là et on a encore quelques-uns à venir. Et je pense qu'ils peuvent entraîner. Mais l'avenir nous le dira. Je suis pas mais je pense que symboliquement, c'était un moment fort qu'ils ont mis en place.
Est-ce que vous partagez la même opinion que Akli Mellouli?
Ce qui se passe,
Philippe Nadjiboyaki.
Ils ont pris cher quand même, les gilets jaunes. Hein. Moi, je les ai couverts de l'intérieur en tant que reporter liveur. J'ai vu des choses assez surprenantes. Il peut y avoir un conglomérat de grogne mélangé. Je fais confiance à celles et ceux qui veulent éteindre la grogne, d'envoyer quelques black blocs tout casser et donc retourner l'opinion publique. puisque l'opinion publique n'aime pas la violence et n'aime pas les effets de guérilla urbaine. Il y avait 4500, 5000, les chiffres sont un petit peu compliqués, mais j'étais pas ce coup-ci, donc je peux pas te dire, mais de gens qui étaient Paris et proche banlieue, il y en avait aussi en province, et on n'a jamais fait le calcul. Les premières rassemblements de gilets jaunes, ils étaient importants parce que la province était montée à Paris.
C'est ça.
Et ça, personne ne s'attendait à ça.
Faites référence, il y a 3 ans.
Oui. Il y a 3 ans, c'était surtout ce fameux 3 décembre où on a pensé que l'Élysée allait tomber. Les ronds-points, etc.
Et puis,
ils ont pris des amendes, ils ont pris, il y a eu,
ils ont pris cher, pour beaucoup.
Il y a eu des mutilés, il y a eu des éborgnés, il y a eu des arrestations, il y a eu des condamnations.
Tout ce qui s'est passé. Encore là,
Des amendes terribles parce que manifestation interdite, donc obstruction à justice, outrage tous les 4 matins, outrage rébellion, le fameux outrage rébellion qu'on connaît bien dans les banlieues, qui a été transformé maintenant sur la place publique et qui a touché la France. Profonde, rurale, je pense que c'est un petit peu compliqué, mais là on voit que tous les syndicats sont unis, tous les partis dits de gauche sont rassemblés derrière Jean-Luc Mélenchon pour dire le 21 on est dans les rues de Paris. Je crois que le baromètre c'est ça, c'est le 21 et le 24, et selon ce qui se passe le 21 et le 24,
mobilisation le 19 janvier.
Les
syndicats, le 19 janvier.
Ouais, le premier. Oui. Absolument.
Ils sont prêts.
Ça devait être le 24, bon, c'est le 19, donc c'est avancé. Et le 21, c'est le truc de la NUPES. Bah voilà, on aura un baromètre à ce moment-là. Mais si en plus vous touchez aux régimes spéciaux, etc., et vous mettez la SNCF, la RATP dans la boucle, là ça devient compliqué.
Alors, les gilets jaunes et tout ce qu'on vient de dire.
Je pense que les gilets jaunes, entre guillemets, quantité, oui, je pense que ça s'est essoufflé. Parce qu'on garde beaucoup aussi l'image de la violence.
Mais est-ce que c'est pas parce qu'ils ont pris cher aussi?
Certainement.
Et de ça aussi, hein. Attention, puis, ils ont morflé, hein.
Et puis, dans l'opinion publique, il n'y a pas eu forcément une bonne image. En revanche, ce qui s'est substitué aux gilets jaunes et qui, à mon avis, doit être entendu et qui, pour moi, aura peut-être un peu plus d'impact, c'est ce que j'appelle, moi, des gilets jaunes, mais dans le sens de la colère, de ce qui a pu émaner au tout début, des gilets jaunes un peu partout, mais sectoriel, parce qu'on voit bien qu'il y a aussi une colère qui monte, que ce soit du côté des médecins, du côté des boulangers, etc., des artisans avec la hausse du prix de l'énergie. Donc, il y a une colère qui est en train de couver et qui est en train de grandir, qui, pour moi, à mon avis, est peut-être beaucoup plus dangereuse.
Vous pensez que les gilets jaunes vont rejoindre les syndicats qui annoncent, ça y est, hein, c'est officiel, appel à une première journée de grève et de manifestation le 19 janvier.
Bien, on aura peut-être un début de réponse à notre question. Certainement.
Oui. Arim Elouli, est-ce que c'est pas aussi, je pose la même question que j'ai posée à celle Ariane, est-ce que c'est pas parce que aussi, c'est parce qu'ils ont pris beaucoup, beaucoup cher, ils ont pris cher les gilets jaunes. Et il y a aussi cette crainte de se dire, si on investit les rues, si on investit Paris, eh bien, on va perdre notre boulot, on va perdre un œil, on va prendre des amendes. Est-ce que c'est aussi ça, ça peut être découragé beaucoup aussi, hein?
Ouais, c'est pour ça que je disais que 4700, avec tout ce que vous dites, c'est déjà quand même symboliquement.
C'est symboliquement pas mal.
Pas mal. Et vous avez raison de dire, en plus, il y a aujourd'hui une espèce de lassitude chez les gens ont envie de baisser les bras. Et je leur dis, moi, et pas pour ça, pour toutes, mais en fait, il y a la réalité. On connaît la réalité, elle est difficile, tout ce que vous avez vu, tout le truc. Mais c'est pas une fatalité, la réalité. La fatalité, c'est si on ne fait rien, si on ne bouge pas. Et Philippe, et bon, même Riyad l'a dit, d'ailleurs, je partage ce qu'ils ont dit. On va le savoir très vite, le 19, on va voir déjà le front syndical, comment il va se mobiliser. Je pense que ce sera une belle mobilisation. En tous les cas, je l'appelle de mes voeux, parce que, au-delà de nos désaccords, c'est aussi la vitalité politique de ce pays. Je pense qu'aujourd'hui, les silences des intellectuels, de tous ces gens-là, deviennent pesants. Et c'est pour ça que, moi, ce qui me gêne, c'est pas les attaques de tous ces énervés qui nous haïssent ou qui n'aiment pas l'autre, parce qu'il est l'autre. C'est tous les silences coupables et complices des gens qui ne disent rien. Alors, aujourd'hui, on ne va pas se taire. Et donc, moi, j'invite, pas à la violence, c'est normal, personne ne peut accepter la violence, quelle qu'il soit. Mais pacifiquement, à descendre dans la rue, à se mobiliser fortement, pour leur dire, vous ne ferez pas, vous ne nous emmènerez pas là où vous voudrez.
Berger qui vient de déclarer qu'une des réformes les plus brutales des 30 dernières années sur les retraites.
C'est la réalité, la méthode. Il n'y a pas de dialogue social, il n'y a plus de dialogue social. On a envie de virer tous les corps constitués. On est en train de détricoter la démocratie. Eh bien moi, je leur dis, il faut leur dire stop, il faut arrêter. Et je crois que si on montre qu'on est mobilisé, c'est le meilleur moyen de protéger son avenir. Parce qu'à un moment donné, il faut arrêter aussi. Parce que derrière tout ça, c'est quand même le détricotage de notre système de protection sociale, du système français de solidarité, et c'est l'ouverture à des fonds de pension, à la financiarisation de la société. Et ça, on ne peut pas l'accepter. L'économie, elle peut être humaine, elle peut être... La finance, elle n'a pas de visage, elle n'a pas d'humanisme. Eh bien, il faut changer ces méthodes-là.
On va parler d'inflation, on va parler aussi, vous savez quoi, du coût de la vie, du panier, et on va parler aussi, vous savez quoi, des prix des billets SNCF qui va subir une hausse de 5%. Ça y est, c'est déjà le cas, puisque c'est effectif, ça prend effet ce mardi, aujourd'hui même, donc d'ailleurs, est-ce que ça ne va pas être compliqué? Parce que aujourd'hui, on est quand même en train de vivre, et on parle, hein, ça va monter de plus en plus jusqu'au mois de mars, notamment où on annonce à mars rouge cette SNCF qui augmente ses tarifs de 5%, est-ce que ça risque de fragiliser un peu plus, vous savez quoi, eh bien, notre quotidien? Philippe Nadji-Bouriaki.
Bah oui, ça va nous impacter. En plus, c'est surprenant parce que la SNCF annonce avoir fait un bénéfice de 2,2 milliards. Mmh. Bah, pourquoi ils augmentent? Enfin, c'est scandaleux. Moi, je voudrais juste faire une aparté. Je trouve qu'Akli fera un très bon sénateur. Mmh. Voilà. Ça, c'est dit, c'est fait. Non mais c'est vrai. Hein, un vrai sénateur de gauche et il nous en manque beaucoup d'ailleurs.
Ça vous travaille, voilà. Akli?
J'espère que je le serai en septembre. Je remercie Philippe de la confiance, mais bien sûr. En fait, aujourd'hui, ce qui manque en politique, c'est des gens qui ont quelque chose, pas des apparatchiks d'appareil qui parlent de populaire ou de choses qu'ils n'ont jamais vécu. Je pense que dans la vie, quand on n'a pas combattu, quand on n'a pas mené ses combats, quand on n'a pas vécu les choses, quand on les a pas, on a du mal à aller plus loin que les bons sentiments et les suppléments d'âme. Et aujourd'hui, ce qui a tué le politique, c'est ces bons sentiments et suppléments d'âme. Je crois qu'il faut savoir quand même que la souffrance, et je le disais, on le disait tout à l'heure, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, mais il y a quand même une vraie souffrance dans ce pays, et il va falloir lui donner un débouché social, humain, et non pas un débouché de la violence comme on essaie de leur apporter. Et c'est pour ça que Laurent Berger parle de violence. Il y a une violence qui est faite politique, il y a une violence sociale, il y a différentes formes de violence.
Ouais, il parle de brutalité, effectivement.
Et on rappelle que Laurent Berger, secrétaire national, est un modéré, CFDT, syndicat dit réformiste, donc c'est pour vous dire à quel point c'est ultra violent.
Mais je viens de recevoir... Ça vient de tomber, hein, Front syndical uni, hein, pour le 19 janvier.
C'est très drôle,
voilà,
parce que...
Ça vient de tomber.
Parce que le 26 décembre, je reçois un texto d'Engie. Bonjour, vous recevrez dans les prochains jours votre facture annuelle, son montant étant plus important que prévu. Nous sommes disponibles pour toutes les questions. Alors, j'ai appelé au numéro, j'arrive à joindre personne, évidemment. Personne ne m'explique la hausse. Je vous dis, moi, j'ai pris 500 €.
De plus.
Je payais 1 000 €, je payais 1 500. Donc,
bloquez-moi.
Ouais, attends. Ils viennent de m'envoyer un message. Disons, hausse des tarifs réglementés gaz. Rassurez-vous, vous n'êtes pas concerné. Votre fonds de berger est au prix du kilowattheure fixe. On se moque de qui? Non, mais. On en a parlé la dernière fois. Moi, j'ai les moyens de la payer. Mais 50% d'augmentation, 5% d'augmentation de billets de train. Le pain, moi, j'ai pris 20%.
Le panier aussi.
20%.
Le panier de course.
20-30%.
Oui, de 20-30%. Ouais, 20-30%. Parce qu'on parle d'une inflation de 6%, mais parce qu'il le lisent sur tous les produits. Mais non, le panier moyen pour pouvoir faire ses pâtes, l'huile, etc.
C'est énorme.
On a pris entre 20 et 30%.
La seule chose qui augmente pas, vous l'avez remarqué, Philippe, c'est le salaire. En fait, aujourd'hui, avec les charges, l'énergie augmentée, le palier de l'aménager augmenté, on passe de 20-30%, on va prendre en mars. C'est pour ça que je dis que les conditions sont réunies pour vraiment aller à un truc. Et je comprends pas qu'on continue. Et je le dis d'ailleurs, puisqu'on fait des comparatifs avec l'Europe. L'Espagne a refusé de suivre l'Europe sur ses préconisations. Ouais, ils sont en train de s'en sortir. Le Portugal, quand Costa est arrivé au pouvoir, au lieu de faire la politique d'austérité que l'Europe leur avait préconisée, il a fait totalement l'inverse. Il a augmenté le SMIG, qui était de 400 et quelques, près 500. Il est aujourd'hui presque à 700 € au Portugal. Et ça a fait redécoller le Portugal. Donc il faut qu'on arrête de nous faire croire que c'est dans l'austérité qu'on s'en sort. C'est pas vrai. L'austérité appelle l'austérité. Et c'est ça qui est la fatalité. Et moi je dis.
Vous m'avez l'air déterminé, mon cher. Vous allez manifester le 19 janvier ou quoi?
Un peu, mon cher Adil.
Ah bah avec ce que vous venez de tenir comme discours, oui.
Et heureusement que je vais aller manifester. Je manifeste pour les enfants, je manifeste pour l'ensemble des Français. Je manifeste pour protéger les plus faibles, les plus démunis. S'il ne manquerait plus que je ne manifeste pas, vous savez, ne pas s'occuper de l'autre. Un jour, vous connaissez le problème, et quand on viendra vous chercher, il n'y aura personne pour dire aussi. Ah, donc ça, il est sûr. Temps de s'exprimer.
J'ai pas entendu.
Le 19, on est en forme.
Raïd Chaïbi.
Bah, augmenter de 5% les prix des billets de train, je ne pense pas que ça va résoudre le problème de la qualité de service de la SNCF. Surtout en plus qu'ils ont plutôt tendance à prendre les Français en otage, on l'a vu à Noël. Et surtout des problèmes qui sont aussi inhérents aussi au très fort corporatisme qu'il y a au sein de la SNCF. Et je pense qu'une ouverture à la concurrence serait saine dans ce secteur.
Attention, ça va faire réagir Adli Mellouli. Merci Raed Chaibi, le président de l'association franco, l'association de la coopération franco-tunisienne, absolument. Merci à vous.
Simplifier ce mot-là, il est dur.
Non, il est bien, il passe bien.
J'arrive pas à le dire, j'ai jamais réussi à le dire. L'association.
Je suis pas toujours d'accord avec Adli, vous avez compris, parce qu'on n'est pas du même bord, mais je trouve que le travail qu'il fait avec son association par rapport à la relation franco-tunisienne est un travail remarquable. Et d'autres devraient s'appuyer dessus, parce que je crois qu'il crée la passerelle et l'amitié entre les peuples, et ça va à l'encontre de cet individualisme que l'on voit se développer.
Et blague à part, pour avoir échangé avec beaucoup de franco-tunisiens, il crée l'unanimité dans la diaspora. J'ai jamais vu ça. Nous, les Algériens, on en rêve. Nous, dès qu'il y en a un, tout le monde lui tombe dessus. Là, vraiment, plus qu'un modèle, c'est un étendard et vraiment bonne continuation.
Revenez, vous avez vu là ? Prenez.
Non, mais c'est la réalité en plus, c'est extraordinaire.
Merci à Philippe Nagy-Boyer qui est le conseiller régional. Merci donc l'écologie au centre, le porte-parole aussi. Merci à Clément Lully, le maire adjoint de Bonneuil-sur-Marne. Et c'est officiel, ça y est, on le sait, c'est ça ? Le Sénat, bientôt ?
Ça serait super.
Je vais, en tous les cas, je vais tout faire pour et je vais me battre pour, c'est normal.
C'est en
septembre 2023.
Non, mais pour une fois, au moins, les Val-de-Marnais se sentiraient représentés par quelqu'un qui leur ressemble. Bon. Moi, j'envoie un message fort au PS, aux communistes, etc.
Merci, monsieur.
S'il vous plaît, mettez un petit peu plus de couleur à l'Assemblée nationale et au Sénat.
À la réalisation, c'était Anthony. Tout de suite, donc, vous allez retrouver. Et merci aux nombreux, très nombreux auditeurs au 0153 48 3000. Vous savez quoi ? Eh bien, je voudrais simplement annoncer que Bilal Ben Nedman revient donc dans une demi-heure, 20h, 21h, et ensuite Vanessa à 21h. Quant à moi, à demain avec autant de plaisir. Mais surtout,
on ne lâche rien.
Ciao !
Retrouvez les informés tous les jours de 18h à 19h30 et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.